Les Nuits de France Culture. Une mémoire radiophonique.
René Guénon. Le nom de cet intellectuel français, mort en 1951, suscite encore aujourd'hui quantité d'exégèses, de débats et de controverses dans les milieux intellectuels où l'on est curieux des questions d'ésotérisme. Il est vrai que sa démarche se voulait iconoclaste, puisqu'il s'est efforcé tout au long de sa vie de construire une métaphysique inspirée par plusieurs grandes religions, dont l'islam, auquel il s'est d'ailleurs converti. Une démarche orientée vers un but, dépasser la crise du monde moderne, c'est d'ailleurs le titre de l'un de ses ouvrages. Quel regard ses contemporains portaient-ils sur son œuvre? On va le découvrir dans la demi-heure qui suit avec cette émission du 21 janvier 1958.
La radiodiffusion télévision française vous prie d'écouter Thèmes et controverses, revue radiophonique des idées et des lettres de Pierre Cipriot. Aujourd'hui, l'œuvre de René Guénon, avec le révérend père Daniel Loup, Luc Benoît, Claude Diget et Madame Noël Denis Boulet. Débat dirigé par Robert Amadou.
Dans la collection Tradition, publiée chez Gallimard et consacrée, nous dit le prieur d'inséré, à des exposés des différents aspects des doctrines métaphysiques et cosmologiques, deux ouvrages de René Guénon viennent de paraître, L'ésotérisme de Dante et La Grande Triade. Bien des réserves pourraient être faites sur cette notion de tradition, aliment pour ces néo-mystiques qui lisent indifféremment le Bhagavad Gita et l'Évangile et admirent avec une affectation d'esprit cultivé des perfections qu'ils sont tout à fait incapables de mettre en pratique, voire de comprendre. Mais laissons ces chimériques, c'est une autre controverse, celle de ce soir portera sur René Guénon. La Grande Triade, c'est l'étude des symboles du taoïsme formés par les termes « ciel, terre, homme ». Terme où René Guénon recherche l'ordre d'une ascèse qui fait de l'homme un principe médiateur entre les influences célestes et les influences terrestres. C'est l'invariable milieu dont l'ensemble hiérarchisé constitue la manifestation universelle qui s'étend ainsi du ciel à la terre. Il est évidemment difficile de résumer cet ouvrage où Guénon, en quête de l'homme universel, confronte toutes les cosmogonies et les mystiques. Il faut lire ce livre si on est curieux de ce genre d'études. Mieux vaut dans cette courte introduction dire quelques mots de René Guénon, dont la vie rigoureuse, vouée à l'étude, n'est pas sans grandeur. René Guénon est né à Blois le 15 novembre 1886. Après des études brillantes qui l'engageaient vers les mathématiques supérieures, études brusquement interrompues, il fréquenta ces cercles ésotériques nés du sentiment infini qui travaillait l'homme romantique et l'incitait à dépasser la condition humaine. Cercles qui fondèrent à la fin du siècle dernier une religion de la nuit retrouvant les religions antiques des mystères et de la gnose. Dans cet univers assez factice, les réactions de Guénon furent rapidement identiques à celles de Huysmans à l'égard de ces sectes où l'on met tant d'empressement à se duper soi-même. Condamnant les doctrines occultistes marquées selon lui par l'avidité magique et incapables de s'étendre au-delà du domaine du corporel et du sensible, René Guénon acquit rapidement la conviction, dès 1910, que la connaissance métaphysique ne peut venir que de Dieu s'exprimant dans la tradition orthodoxe contenue à travers les livres sacrés de tous les peuples. Tradition qui, nous dit Guénon, dans un article de la revue La Gnose qu'il dirigea jusqu'en 1912, est partout la même, malgré les formes diverses qu'elle revêt pour s'adapter à chaque race et à chaque époque. Le problème sera alors de bien localiser, définir cette tradition qui, prolongée sans mesure, par un amas de commentaires fantaisistes, peu à peu s'est dénaturée, se heurtant à l'indifférence des hommes, au mystère des choses et surtout à nos propres faiblesses. Et on retrouve là les idées fondamentales de la gnose, à savoir que toutes les religions se concilient si on cherche à expliquer leur sens profond. L'idée aussi que ce sens profond des choses divines est sans cesse compromis par l'écran que le monde créé, dans son imperfection, introduit entre le Dieu lointain et nous. La création, selon les gnostiques, ne peut conduire à Dieu que négativement. L'initié arrive à la lumière en apprenant que son regard, partout où il tombe, ne voit que des étoiles éteintes. L'état présent n'est que le résultat d'une déchéance, l'effet d'une matérialisation croissante, entre lesquelles tant de jours sont venus se placer comme une série de voiles. Il faut alors revenir à l'état primordial qui seul peut nous faire retrouver notre patrie spirituelle, celle de l'éternité opposée au temps. Pendant la guerre de 1914, René Guénon enseignait la philosophie à Saint-Germain-en-Laye, à Sétif, puis à Blois. En 1921, il publia ses premiers livres, l'un sur les doctrines hindoues, l'autre sur le théosophisme, histoire d'une pseudo-religion. Pendant les années 25-28, après avoir cherché au-delà des phénomènes l'ordre métaphysique, défini, comme nous l'avons vu, par un déconditionnement de tout ce qui constitue l'être humain, sur sa faiblesse appuyant sa défense, René Guénon, cette fois, revient aux conditions historiques de nos mœurs, de nos cultes, de notre savoir. C'est là une phase nettement critique, puisqu'il s'agit de montrer que les vérités immuables ne sont plus adaptées à l'homme tel que nous le concevons, ne peuvent plus être comprises, ni être efficaces, et Guénon écrit alors « La crise du monde moderne » et plus tard « Le règne de la quantité et les signes des temps ». Ces deux ouvrages inaugurèrent la collection « Tradition » dont nous rendions compte tout à l'heure. Parce qu'il y prenait souvent le ton d'un prédicateur moral voué au malheur des temps troublés, ces deux livres originaux et souvent bavards furent mis au pinacle par tout un public dont les aimantations sympathiques sont toujours dirigées vers les symptômes de dégénérescence et qui ne se maintient que par un sentiment trop sensible de fraternité où la solitude des maussades se change volontiers en malédiction d'apocalypse. La grande déception messianique prend alors l'aspect d'un défi au monde moderne et à l'Occident où, selon Guénon, l'excès de la culture scientifique et la force technique ont développé les séductions du monde sensible et, en contre-coup, l'individualisme, puisque l'analyse de l'objet conduit bien vite à isoler l'homme, et qu'ainsi isolé, l'homme augmente sa prudence et coupe ses antennes métaphysiques, traite d'inconnaissable, voire d'inexistant, tout ce qui est défiance aux lois ou sans lien avec le pouvoir technique. Le mérite de René Guénon, même pour son œuvre la plus publique, c'est de n'avoir jamais parlé au nom de plusieurs, représenter un groupe, ce qui maintient au moins sa sincérité. Pourtant, dès cette époque, son œuvre se divise entre l'Action française, où Léon Daudet lui consacre un feuilleton, et le groupe des surréalistes du Grand Jeu. Au fond, le mal était double. Et le 20 février 1930, après la mort de sa femme, René Guénon partit pour l'Égypte afin d'y recueillir des textes ésotériques islamiques. Il y restera jusqu'à sa mort en septembre 1950, près de l'université d'El-Azhar. Il se remaria d'ailleurs avec la fille du cheikh Mohamed Ibrahim, entra dans la communauté islamique sous le nom d'Abel Wahed, et même dans les articles nécrologiques, l'œuvre de Guénon fut encore très contestée. Les plus grands reproches vinrent du côté catholique, où on lui reprocha, par son recours à une tradition cachée, de faire de l'homme une énigme théologique faisant retomber l'individu sous la domination du cosmos, alors que selon la foi, par l'alliance évidemment et la venue du Sauveur, la loi divine n'est pas un fait de nature, mais la prise de conscience dans le temps d'une vocation divine. À partir de là, tout devient histoire, une histoire dont les étapes s'enchaînent, se complètent. Temps providentiel, où le temps cyclique de Guénon ne peut même pas être conçu, puisque ce temps cyclique transforme le monde en une liturgie cosmique où l'ascèse permet de retrouver la hiérarchie. Ce qui est certain, c'est que l'œuvre de Guénon a donné une impulsion nouvelle aux recherches ésotériques, qu'il a pris soin d'étayer et, dans une certaine mesure, de confirmer par des recherches rigoureuses portant sur la spiritualité chinoise, indienne ou islamique. Il invita ainsi les orientalistes occidentaux à prendre une attitude plus compréhensive à l'égard de ces civilisations qu'ils étudiaient avec curiosité sans doute, en cherchant à les traduire, mais en y entrant seulement jusque-là, sans se laisser aller jusqu'à cet effet d'envoûtement qui, avec Guénon, élargit singulièrement l'horizon. Sans doute cette attirance pour l'Orient ne va pas sans quelque injustice, et quand Guénon exalte la puissance de l'ésotérisme islamique ou hindou, il ne se rend pas bien compte que cet ésotérisme n'est que l'effet d'une impuissance présente de toutes les religions, de la Terre, qui n'intéresse plus réellement qu'une minorité, tandis que la masse des croyants suit comme elle peut et selon une mentalité qui fait désespérer de l'impulsion religieuse. De même, quand Guénon oppose à cet ésotérisme le règne de la quantité, qui marque d'après lui les démocraties et l'industrialisme occidental, il ne se rend pas bien compte que notre science moderne, elle aussi, est un ésotérisme qui n'intéresse que quelques esprits d'élite condamnés à chercher seuls et à s'écouter eux-mêmes au milieu des puérilités de l'ensemble. Le débat qui va suivre et que Robert Amadou va diriger fera entendre, à côté de l'œuvre de René Guénon, une contrepartie. Participeront à ce débat Claude Diget, Madame Noël Denis Boulet et Luc Benoît, pour qui l'œuvre de René Guénon fut la révélation d'un monde et son auteur le messager du bonheur. Nous entendrons également le révérend père Daniel Loup, qui, au moment de la mort de Guénon, fut, du côté catholique, un des plus ardents défenseurs de la doctrine, tout en lui reprochant d'avoir méconnu la nouveauté absolue du christianisme. Je laisse la parole à Robert Amadou.
Monsieur Luc Benoît, qui est un ami de René Guénon, pourrait peut-être nous rappeler quelles sont les définitions exactes de la tradition selon René Guénon.
Cet homme qui a commencé par les mathématiques s'est intéressé ensuite au sanskrit, a été envoûté par l'Inde, et ce n'est que par l'Inde et par le Vedanta, sur lequel il a écrit un livre célèbre, qu'il a ensuite rayonné parmi les autres traditions asiatiques, la Chine, l'islam, et qu'il a retrouvé une unité qui, pour lui, était le centre et qui permettait justement de comprendre toutes ces traditions diverses qui, jusque-là, n'avaient eu, si je peux dire, que des traducteurs et non pas des commentateurs. Parce que j'aime à dire que Guénon a été en fait un homme qui, comme les grands médiévaux, a été un grand commentateur et a révélé à tout un public, qui ne l'avoue toujours peut-être pas, mais qui en a profité, qui a révélé les traditions asiatiques.
Vous pensez que René Guénon a procédé en quelque sorte par induction et que l'on doit considérer que la doctrine qu'il expose, il l'a non pas reçue comme fruit d'une cogitation ou comme fruit d'une illumination, mais qu'il l'a lui-même établie à partir des études particulières qu'il a pu faire des différentes traditions.
Et je crois qu'il s'est toujours refusé à dire et par qui il avait été lui-même initié aux différentes traditions asiatiques.
La notion de tradition fournit en somme le critère de la vérité doctrinale, selon Guénon.
La tradition, pour moi, c'est à la fois le contenu et le contenant. Moi, je dirais plutôt que la tradition est le moyen de transmission d'un contenu qui est métaphysique.
Oui, mais le fait que ce contenu métaphysique est traditionnel lui confère son caractère de vérité.
Évidemment.
Plus exactement, on est le signe.
Oui, seulement, s'il n'était que traditionnel, il y a beaucoup de fatras dans les traditions. Alors, au sens guénonien, seul est traditionnel le surnaturel authentique et les doctrines qu'il considérait comme authentiques.
Je pense que, en effet, ce qui fait le grand intérêt de l'œuvre de Guénon, c'est l'accent qu'il a mis sur l'importance de ce facteur traditionnel. Et de ce point de vue-là, je crois que ce qui reste pour nous en face à vraie grandeur, c'est la critique qu'il a fait de toutes les illusions d'un certain modernisme ou progressisme sous toutes ses formes, en affirmant que ce qu'il y avait de plus précieux dans l'homme était quelque chose de permanent. Et je pense aussi qu'en ce sens, la manière dont il a réhabilité les valeurs métaphysiques, en montrant que les valeurs métaphysiques représentaient une constante de l'histoire humaine, que ceci me paraît tout à fait valable, de même également aussi la manière dont il a réhabilité la connaissance symbolique, dans un monde où justement
oui,
on n'est plus
important.
Accessible qu'au règne de la quantité.
Très
il
important.
Me semble qu'il y a là quelque chose qui est d'une importance très grande, n'est-ce pas? Et en montrant que précisément le symbole était une voie de connaissance absolument valable, n'est-ce pas? Et qui seul donnait accès aux réalités les plus importantes auxquelles n'accédera jamais précisément un certain positivisme scientiste. Et de ce point de vue, il faut le dire, les travaux modernes de gens comme Eliade ou autres confirment tout à fait justement
exactement.
Les résultats auxquels...
Du reste, Mircea Eliade est un grand connaisseur de Guénon.
Sûrement. Et en ce sens-là, justement, Eliade a certainement apporté une confirmation à cet aspect.
L'essentiel, comme vous le disiez, a bien été tiré du Vedanta, des hindous. Le symbolisme de la croix paraît plutôt avoir fait appel à la tradition musulmane. Et d'autre part, nous avons aussi, dans la Grande Triade, son contact direct avec le taoïsme. De tout cela, Guénon avait su tout de même tirer une véritable unité. On ne peut pas dire qu'entre ces différents ouvrages, il y ait une espèce de pluralisme. C'est un peu déconcertant. C'est bien toujours dans la même ligne. Et le secret du choix qu'il a fait dans ses traditions, car comme vous le disiez, il a tout de même dû éliminer un certain fatras pour choisir le meilleur, le secret de ce choix me paraît être tout de même la marque de sa très grande valeur intellectuelle personnelle.
Oui, je me demande si en même temps la remarque que vous faites, madame, n'est pas une critique, ou au moins ne pose pas une question. Je veux dire que vous avez souligné très justement l'unité de ces différents livres. Est-ce que le problème n'est pas de savoir d'où provient cette unité? Vous avez parlé de choix de la part de Guénon. Est-ce que cette unité est intrinsèque ou est-ce qu'elle procède du choix qu'a fait Guénon dans les différents éléments qu'il a lui-même interprétés? Nous retrouvons là la question que nous posions tout à l'heure à propos de la tradition.
Ce que Guénon a très bien mis en valeur, c'est qu'il y a une permanence des vérités métaphysiques. Je pense que ce dont je suis beaucoup moins convaincu, c'est que cette permanence tienne à une transmission, car il donne à tradition le sens très fort d'une transmission de maître en maître à travers les générations. Et il mettrait à l'origine de cette transmission, ce qui lui était sans aucun doute plus particulièrement cher, les doctrines de l'Inde, dont il pensait qu'elles étaient au fond la source la plus importante et qui représentaient encore aujourd'hui la théorie les plus
valables. Or, c'est ceci justement le plus ancien.
Oui, et ceci qui me paraît alors de tout point de vue, de toute manière, extrêmement contestable.
Il avait une très belle formule quand il disait qu'il ne fallait pas mélanger entre elles les traditions, mais que la synthèse devait se faire de l'intérieur et par en haut.
Bien entendu.
Oui, mais il faut que cette synthèse préexiste, n'est-ce pas?
Mais je ne crois pas que Guénon ait jamais dit que les théories hindoues étaient à l'origine de toutes les autres traditions. Ça, je ne le crois pas. Il a dit que les traditions différentes avaient une origine commune et il faut tout de même logiquement avouer que la concordance qu'il établit et l'équivalence qu'il établit me paraîtrait impossible si cette origine n'existait pas. Parce qu'il me semble qu'il faudrait, étant grand mathématicien lui-même, il l'a dit quelquefois, que cette concordance serait improbable mathématiquement. Et qu'il y aurait trop de grandes différences entre les états d'esprit des différentes races.
Il n'a pas traité formellement le problème de l'origine de ces différentes
traditions. Il ne l'a jamais traité, bien entendu, parce que c'est obscurci par l'origine même des choses.
D'autre part, il faudrait être certain que cette concordance est aussi grande et aussi frappante.
Oui.
Prendre par exemple le cas du christianisme, il faudrait être certain qu'en effet, les rites sacramentaux ont été, pendant au moins 3 siècles, comme il le dit, je crois, dans les aperçus sur l'ésotérisme chrétien, de véritables rites initiatiques qui ensuite auraient été exotérisés.
La concordance dont vous parliez ne peut pas exister, suivant Guénon lui-même, entre les formes extérieures. Et c'est pourquoi il a mis en relief ce qu'il appelait l'ésotérisme, parce que l'unité ne peut être trouvée que d'une façon cachée et inexprimée, parce que dans l'expression, il est forcé qu'il y ait des oppositions, comme dans tous les phénomènes.
Je pense que l'énoncé de base de Guénon est avant tout, il y a une révélation primordiale. Cette révélation primordiale a été transmise avec des modalités différentes, selon l'expression même de Guénon, pour des équations données d'humanité. C'est-à-dire que le vase réceptacle, en fonction même de sa nature, ne peut recevoir de la même façon la même chose, mais qui n'a qu'une origine. Et, par exemple, il n'a jamais dit que la tradition védantique était supérieure. Il ne faut pas mélanger les problèmes. Guénon a dit que seul l'Inde, à l'époque contemporaine plus particulièrement, est la seule qui conserve dans l'intégrité exotérique et ésotérique la complète soumission à la tradition. C'est-à-dire que l'Inde vit encore traditionnellement.
Oui, seulement vous oubliez qu'il a dit que dans l'Inde, il n'y avait pas d'ésotérisme. l'Inde conservait l'entière tradition primordiale. Et n'ayant pas d'ésotérisme, il n'y a pas d'hétérodoxie. Tout est dans l'Inde.
Ce qui me paraît peut-être encore beaucoup plus important, c'est que Guénon a dit que ces vérités, ces notions doctrinales qui se trouvaient dans la tradition hindoue, se retrouvaient d'une manière identique dans d'autres traditions, pourvu, comme vous le rappeliez tout à l'heure, Monsieur Luc Benoît, pourvu qu'on cherche la vérité ésotérique sous l'exotérisme.
En ce qui concerne la question de l'origine dans une révélation primitive de tout ce qu'il y a de vérité dans les diverses métaphysiques, car c'est précisément ceci qui me paraît justement très contestable alors dans la théorie de Guénon, ceci d'un double point de vue. Le premier est d'abord que je pense que cette convergence que nous rencontrons entre les différentes traditions métaphysiques vient davantage de ce qu'il y a de commun dans la structure même de l'esprit humain. Et le problème me paraît tout à fait analogue à ce que montrent aujourd'hui les historiens des religions en ce qui concerne les grands symboles, que par exemple il n'y a pas du tout une influence du symbolisme de la croix dans telle religion par rapport à telle autre religion, mais que le symbolisme de la croix est quelque chose qui fait partie d'une structure symbolique qui est inhérente à l'esprit humain. Et alors le second point sur lequel je voudrais attirer l'attention là-dessus, c'est que précisément le fait que Guénon pense que la vérité est primitive et transmise ainsi à travers les traditions est évidemment ce qui constitue sa fondamentale et radicale, à mon avis, opposition au christianisme, car il lui est impossible d'admettre dans ces circonstances qu'une révélation nouvelle soit intervenue avec la venue du Christ, en sorte qu'il y ait là quelque chose qui soit étranger aux traditions antérieures et qui apporte un élément qui, en ce sens-là, n'est pas traditionnel parce qu'il est quelque chose de radicalement nouveau.
Est-ce que vous ne pensez pas qu'il s'agit là d'une opposition entre deux notions de l'histoire, probablement inconciliables?
Mais je le pense tout à fait. Je crois que c'est sur ce point-là, en effet, qu'est l'opposition alors fondamentale.
Je ne le crois pas parce que l'apport du Christ est nouveau dans le monde où il a vécu, mais d'un point de vue plus général, Guénon le considérait comme le renouvellement d'une vérité éternelle.
Je ne pense pas que cette idée de renouvellement, comme vous le disiez, soit sous cette forme-là acceptable aux chrétiens. Je me demande ce qu'en pense le père Daniel.
Je pense justement qu'il y a dans la révélation du Christ quelque chose qui constituait une vérité éternelle, certes, mais jusque-là radicalement inconnue. C'est ce que saint Paul appelle le mystère au sens propre, dont il dit qu'il était caché même aux anges. Et en second lieu, je crois qu'en plus, il y a dans l'événement du Christ quelque chose qui est radicalement nouveau et qui modifie la condition humaine. Et je pense que de ce point de vue, Guénon, n'attachant d'importance qu'à la vérité métaphysique et non pas du tout à l'événement historique qui était pour lui quelque chose de sans intérêt, ceci le rendait évidemment très incapable de comprendre qu'un événement qui est pour nous l'incarnation du Verbe soit quelque chose qui soit d'une portée absolument
décisive.
C'est
parce que le christianisme, peut-être, met l'accent d'abord sur l'histoire et ensuite sur l'apport de l'homme historique, tandis que Guénon mettait l'accent sur la vérité incarnée dans un homme.
Je crois qu'il y a une valeur de l'événement historique en tant que tel et de l'événement suprême qui est l'incarnation du Fils de Dieu, qui est propre au christianisme, qui est vanté par le christianisme et qui me paraît très difficile même à comprendre dans une théorie de l'histoire telle que celle de Guénon.
Guénon disait que tout ce qui est mystère pour un chrétien n'est mystère que parce qu'il est religieux et exotérique. Et il devient une vérité ésotérique et comprise par un certain nombre d'initiés qui sont plus connaisseurs que les autres.
Oui, mais à ce moment-là, on vide précisément l'événement historique de sa valeur propre.
Non, pas du tout. Il représente pour le commun des mortels ce qui n'a pas été compris dans la spiritualité même.
C'est là ce qu'un chrétien ne saurait en aucun cas admettre. Mais il n'en est pas moins vrai que le christianisme est conciliable avec l'idée d'une tradition métaphysique primitive provenant d'une première révélation de Dieu à l'homme.
Eh bien, ce que dit Mme Noël Boulet me paraît parfaitement exact. Il n'y a aucune difficulté à admettre qu'il y a une tradition métaphysique, n'est-ce pas? Je pense que, par ailleurs, ce que le chrétien dira, c'est que la révélation du Christ n'est pas simplement métaphysique.
Exactement.
Mais quelle est la révélation de quelque chose qui est au-delà de ce que la métaphysique pouvait saisir. Et de ce point de vue-là, je dirais volontiers que la métaphysique fait partie des éléments absolument permanents et traditionnel de l'homme, et que là, Guénon a raison, mais qu'il a tort quand il pense qu'il n'y a pas un au-delà de la métaphysique qui est précisément la révélation surnaturelle, et qui, elle, alors, est intervenue à un moment de l'histoire et nous apporte quelque chose de nouveau que la métaphysique ne nous apportait pas.
D'autre part, il est clair pour saint Paul que le christianisme est comme un accomplissement de toutes les vérités primitives qui ont pu être transmises par la tradition générale de l'humanité, non seulement par la tradition juive, mais aussi par la tradition non-juive, avant l'arrivée du Christ.
Je pense que nous touchons là à un point axial et le plus difficile.
Je crois en effet que c'est le point
fondamental. Étant donné que la religion chrétienne, même historiquement parlée ou dogmatiquement parlée, se différencie déjà des autres pour le chrétien, puisqu'elle est, en définitive, depuis la naissance du Christ, la seule religion vraiment universelle. Autrement dit, la religion chrétienne, pour les chrétiens, a tout de même une supériorité définitive sur les autres depuis l'incarnation du Verbe. Bien que certains pères de l'Église aient écrit que tous ceux qui croyaient au Logos avant Jésus-Christ étaient chrétiens.
Guénon lui-même n'a jamais nié la validité du christianisme, ni même la divinité du Christ. Il a écrit les aperçus sur l'ésotérisme chrétien. Il a même dit qu'aucun renouveau traditionnel n'était possible en Occident sous une autre forme que la forme chrétienne. Donc il apporte de l'eau à votre moulin.
Et seulement, je crois que le problème est tout de même de savoir si l'exégèse ésotérique est simplement un approfondissement ou n'arrive pas parfois à une véritable contradiction avec...
Oh, sûrement pas. L'ésotérisme ne peut pas arriver à une contradiction puisqu'il est informel.
Malgré toute mon admiration pour René Guénon, je ne crois pas qu'il ait eu un sens très aigu de l'originalité du message chrétien. Ce n'était pas sur ce plan-là qu'il se plaçait. Et la question n'a jamais été étudiée par lui d'une manière extrêmement directe et profonde.
Oui, c'est d'ailleurs sur le christianisme qu'il a le moins écrit, et il a toujours refusé d'écrire, et il ne voulait pas, et on lui a arraché le peu qu'il a dit.
En particulier, s'il a lu quelquefois avec intérêt les évangiles, et s'il a fait quelques réflexions d'un caractère intéressant sur les textes évangéliques, il ne s'est jamais attaqué à l'étude sérieuse et approfondie de saint Paul, qui est tout de même la base de la conception ecclésiale et traditionnelle, à notre sens, à nous, de la foi chrétienne.
Oui, d'ailleurs, ce n'est pas là son originalité. Toute son œuvre est plutôt une explicitation des traditions orientales.
Et je crois qu'en ce sens-là, justement, un chrétien peut très bien rendre justice, justement, à Guénon dans l'ordre dans lequel il apporte quelque chose de très positif, encore une fois, comme je le disais tout à l'heure, dans cette réhabilitation de l'idée d'une métaphysique traditionnelle. Seulement en ajoutant, justement, qu'un chrétien dira qu'il y a alors un domaine dans lequel il n'est pas vraiment entré, qui est celui du problème chrétien, et qu'il laisse en dehors, en ce sens-là.
Je crois aussi que une des qualités principales de l'œuvre de Guénon est de son message. C'est la prépondérance accordée toujours au spirituel sur le matériel. Et je crois en tout cas que d'un point de vue social, il a rendu aussi bien aux chrétiens qu'à tout être humain le sens de la grandeur, n'est-ce pas? Et un ouvrage comme La crise du monde moderne, paru en 1927, était prophétique ô combien, uniquement par le sens de la grandeur, n'est-ce pas? Et en tout cas d'une certaine pureté guénonienne, de l'intégrité. Et vraiment, quand on relit La crise du monde moderne, qui est le premier ouvrage de Guénon que j'ai lu, ce n'est pas pour cela que j'y donne une prépondérance, on voit qu'il était au-dessous de la vérité, des lois qu'il a données aux conséquences du quantitatif, que le règne de la quantité n'a fait que confirmer et développer. Et du point de vue de la manifestation, l'œuvre de Guénon est plus que prophétique, elle est témoin et juge.
Vous venez d'entendre « Thèmes et controverses », revue radiophonique des idées et des lettres de Pierre Cipriot. Aujourd'hui, l'œuvre de René Guénon, avec le révérend père Daniel Loup, Luc Benoît, Claude Diget et Madame Noël Denis Boulet. Le débat était dirigé par Robert Amadou. La semaine prochaine, Gandhi, avec des textes de Romain Rolland, dialogue avec Gandhi, et Tibor Mande, dialogue avec Nehru.
Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France 3 Nationale le 21 janvier 1958. Elle est à réécouter en ligne et à télécharger sur le site franceculture.fr à la page des nuits de France Culture.